Bon. Alors, on va peut-être poser quelques questions d'abord, et puis après donner la parole à la salle. Donc, je voulais revenir un peu sur ce que tu as dit, Bernard, que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est vrai que je n'avais jamais pensé la chose comme ça. Quand tu parles de finalement de l'inconscient qui se lie, enfin bon, d'accord, on parle, mais donc tu fais comme ça le... Enfin, tu mets comme ça en tension la lecture et la parole dans le cadre de l'analyse. Alors, la lecture, effectivement, ça renvoie à l'écriture, et la parole, ça renvoie à entendre, enfin, le mot qu'on entend. Donc, est-ce que tu pourrais en dire quelque chose de plus ? Oui ?
Je réponds tout de suite ?
Bon, oui.
Je dirais qu'il y a deux plans. Il y a cet enseignement de Lacan, et alors je suis en train de rechercher un petit peu les références, mais je crois que c'est le séminaire encore justement, hein, où il parle, et puis la fameuse postface où au fond Lacan dit que dans la parole il y a un effet d'écrit, c'est-à-dire il y a quelque chose. L'autre plan, c'est l'expérience de la cure, je dirais la mienne et celle des gens que je rencontre. Il y a quelque chose qui insiste, qui est de l'ordre sans doute de ce y a de l'un, de cet essaim dont parle Lacan, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce qui s'entend, mais qui se lit. Alors je crois que ça concerne toute l'histoire de la transcription, hein, qui a ouvert des débats comme ça. Et d'ailleurs, il est frappant que Lacan, parfois, quand il parle de son séminaire, je crois que c'était dans le séminaire 11, j'avais noté quelque chose comme ça, où il dit qu'il faut qu'on sache ce qu'il fait. Il demande pas qu'on entende ce qu'il dise. Il demande qu'on sache ce qu'il fait. C'est vrai, tu as raison. C'est quelque chose qui m'a longtemps interrogé, qui me paraît évident, comme ça, plus évident aujourd'hui. Je crois que l'expérience de la cure n'y est pas pour rien. Au travers de la parole, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce qui s'entend, mais qui est un effet d'écrit et qui donc serait à lire. Je crois que c'est ce qui concerne cette affaire de Yadelin, cette affaire de l'essaim, quelque chose. En dire plus, il faudrait reprendre le texte. Il me semble que c'est assez clair dans le séminaire encore et dans ce qu'il y a autour. Hein. Voilà.
Parce que dans encore, alors je ne me souviens plus exactement où, il parle de l'araignée qui tisse sa toile, et il fait donc le lien avec l'écriture et donc vraiment quelque chose qui sort du ventre, donc on a l'idée que ça sort des tripes, et je crois qu'il fait un lien avec la question du réel, l'écriture et le réel, je crois, je sais pas si quelqu'un a le passage en tête. Donc je trouve que c'est intéressant que tu, enfin c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à la, dans le cadre de la cure analytique, à la question de ce qui s'écrit. Oui.
Je rajouterai un mot, si tu permets, rapidement, ça, parce que ça m'en vient. À un moment, Lacan dit, mais on reproche à l'analyse d'être quelque chose d'arbitraire, l'interprétation est arbitraire. Mais Lacan répond à ce moment-là, il dit, mais c'est pas vrai du tout, parce qu'il y a quelque chose qui revient toujours à la même place. Au-delà de ce qui est dit, dédit, dans les dits de l'analyse, il y a quelque chose qui revient toujours. Font sans doute quelque chose qui fait ce y a de l'un, et ça c'est quelque chose, sans doute, je crois que c'est de l'ordre de ce qu'il appelle cet effet d'écrit, qui n'est bien sûr pas quelque chose qui s'écrit sur le papier, mais qui est à lire. Je crois que ça fait vraiment partie des choses de cet enseignement de cette époque là enfin,
mais moi j'ai pas idée que l'interprétation soit quelque chose d'arbitraire.
Non. Mais bon,
pas du tout.
Ce qu'on reprochait à Lacan, à mon avis, ou à Freud.
Ah oui, ce qu'on leur reproche, d'accord.
Ça,
oui. Ben non, parce qu'au contraire, tu l'as dit, donc c'est pas arbitraire du tout. Hein ? Oui. Est-ce que vous avez des questions aussi à poser par rapport à... Et par rapport à... Oui, donc, Marie-Claude... excusez-moi, bon, ce soir, ça va être... Annie-Claude. Oui, ce que tu disais de la passion, tu pourras enfin, ajouter quelque chose, parce que j'ai trouvé que c'était...
Il me semble que la passion, c'est quelque chose qui est obligatoirement fugitif.
Obligatoirement fugitif, qui donne le sentiment tout d'un coup d'une unité totale, d'un miracle, d'un absolu, c'est merveilleux, rien n'est jamais arrivé jusque-là, et ça n'est jamais arrivé aux autres non plus. Et puis, il faut bien que ça s'interrompe. Alors, comme ça ne peut pas s'interrompre par la lassitude, parce qu'autrement, ça deviendrait banal, il y a toujours un élément extérieur qui vient interrompre la passion, qui coupe tout ça dans le vif et... Et c'est à nouveau la contingence. Mais je vais dire, je suis pas une spécialiste.
Hein. Non, mais j'en parlais aussi parce que tu parles de points communs entre le transfert et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu.
Ça, c'était un peu audacieux.
C'est un peu
audacieux tout ça.
Hein. Ah bah oui, mais bon, oui, oui. Mais tu dis que l'acte justement psychanalytique fait coupure.
Ah oui. C'est-à-dire que l'acte psychanalytique, il vient interrompre tout ça. C'est-à-dire que tout ce qui est dehors de l'imaginaire,
oui.
Bah, c'est le but de l'acte analytique, de mettre les pieds dans le plat. Mm. C'est ça le but, c'est qu'effectivement, l'analyste, enfin, on a tous cette expérience, au début de la cure, l'analyste paraît quand même quelque chose, et puis au fur et à mesure que le temps passe, effectivement, quelque chose se désuppose, quelque chose tombe, quelque chose, voilà.
Bon, on va passer par la salle.
Oui, à propos de l'amour, son déclenchement et le transfert, au fond, c'est vrai, c'est une question que je vous pose à tous les trois, parce qu'en vous entendant, ça m'a rappelé un passage de Lacan qui m'avait frappé. Au fond, quand un sujet va en analyse, c'est vrai qu'il y a déjà un transfert, possiblement sur le savoir analytique, on lui indique un nom. Mais ensuite, il faut que ce transfert s'actualise. Et Lacan a donné des clés, une clé de cette actualisation dans son intervention sur le transfert, le renversement dialectique qui interroge, auquel procède Freud quand il interroge Dora, sur « Depuis quand ça la scandalise ?» Et là, avec un sourire, elle reconnaît qu'elle a été complice pendant longtemps. Autrement dit, par son intelligente question, Freud s'adresse au sujet et l'interroge, l'amène à s'interroger lui-même sur son implication. Au fond, ça c'est une forme de... Et Lacan dit que le transfert commence là. Et donc là, il y a une dimension de savoir-faire, voire d'intelligence dialectique du psychanalyste. Mais il y a un autre passage de Lacan quand il dit à propos de la règle fondamentale que la seule façon dont elle est énoncée, c'est-à-dire son énonciation, montre le point de conséquence où il est arrivé pour l'analyste lui-même. Le point de conséquence de la règle fondamentale. Rien que la façon dont il l'énonce, ça dit comment il se positionne. Quelles conséquences ça a pour lui, le rapport au signifiant. Et là, on est dans une autre dimension que l'intelligence dialectique. Là, il y a quelque chose, c'est la question que je vous pose, est-ce que c'est pas là qu'il y a quelque chose qui à la fois est énigmatique, mais en même temps qui est de l'ordre du signe et qui cristallise la rencontre, au-delà de l'intelligence du dialogue.
Sûrement, il faut bien qu'il y ait quelque chose, effectivement, pour que ça se réactualise, comme tu dis, sûrement. Mais ça reste toujours aussi énigmatique. Hein. Enfin, je crois.
Mais s'il y avait le savoir absolu, il n'y aurait pas d'énigme. Hein, Je dis ça tout bêtement. Si on se met à s'étonner qu'il y ait des signes énigmatiques, c'est que quand même, est-ce qu'on n'a pas l'idée que le savoir devrait balayer tout ça ? Je dis, si on s'étonne qu'il y ait des signes énigmatiques, est-ce que c'est pas le signe qu'on aimerait que le savoir balaye toutes les énigmes, que le savoir ne soit pas béant? Donc, hein, on aimerait, hein? Oui, bon. Alors, au fond, ce que Marc disait concernant le transfert, c'est tout à fait ça. C'est que l'analyste donne des signes de son rapport au savoir, lui. Et alors, ces signes, évidemment, on ne peut pas les mettre en traité. Premièrement, vous direz ça. Deuxièmement, vous direz ça. Troisièmement, vous direz ça. Et en plus, c'est propre à chacun, puisque ça dépend de son désir à lui, en tant qu'analyste, du rapport de son désir au savoir. Donc, il y a bien, en effet, je trouve ça tout à fait certain, en fait, il y a bien dans l'entrée dans le transfert, pas le transfert général à la psychanalyse, mais avec quelqu'un qui va devenir votre analyste, comme on dit, ça ne se fait pas sans qu'il y ait des signes perçus par l'analysant. Ces signes peuvent être illusoires, fantasmatiques, bien sûr, mais il y a toujours l'accroche à des signes du rapport que l'analyste a avec le savoir. Ça me paraît tout à fait certain. En ce sens, Lacan n'a pas besoin d'expliquer quand il dit « le transfert n'est qu'application particulière ». Il l'a déjà expliqué bien des fois avant. Alors moi, je voulais vous lancer une question à tous les trois aussi. Si vous avez lu, comme vous, bien sûr, nous avons tous lu tout le séminaire, eh bien, à la page 110, on lit « L'amour n'a rien à faire, contrairement à ce que la philosophie a élucubré, avec le savoir. » Ah, alors, comment vous arrangez ça ? Comment vous arrangez ça ? Hein ? Et ici, le passage que l'on commente, hein, commence, c'est page 110, oui. Et d'ailleurs, il continue sur la haine. La haine qui s'adresse pas à l'être, mais à l'existence du dire. Ça, c'est pour Irène. Alors, bon, ça c'est... Oui, aussi, mais il faut arranger les propositions entre elles pour comprendre. Donc, c'est pour ça que je vous lance la question.
Alors, moi, je pourrais vous dire sur les signes. Tiens, prends le micro. Sur les
signes qu'on voit l'analyste. Effectivement, c'est l'analysant qui voit les signes, qui repère les signes. C'est pas pour autant que l'analyste en a donné. Ça peut arriver. Non, mais en fait, il peut y avoir des signes. Le sentiment que l'analysant repère des signes du savoir, son rapport avec le savoir, son désir avec, de l'analyste, mais parfois, c'est effectivement. Enfin, on peut supposer que c'est l'analysant qui peut les repérer, comme vous disiez, tout à fait imaginairement, et qu'il n'y en ait pas. On voit bien des gens, par exemple, qui vont rencontrer, qu'on voit pour la. Enfin, qui ont déjà vu deux ou trois personnes avant, et puis qui tout d'un coup peuvent expliquer qu'il avait l'air vraiment bien, et puis, etc., etc. Il y a quand même quelque chose qui est du côté de l'analysant qui repère. Pas seulement l'analyse qui donne les signes.
Donne des signes, je
ne
veux pas dire qu'il
les
donne
intentionnellement. Non, mais j'ai bien compris ça. Mais je veux dire, l'analysant,
le signe principal, c'est la position interprétative.
Oui.
Le moindre progrès dans la position interprétative indique le rapport de l'analyste.
Non, là, ça peut.
Après, l'analysant, il peut greffer là-dessus tout ce qu'il veut de chacun avec son
distance.
Bon, bien sûr, mais c'est pas ça qui compte.
Non. Ce qui compte, c'est que le lien transférentiel qui s'établit entre un sujet dont l'amour transférentiel s'adresse à sa part, ça c'est la formule 73, l'amour, le transfert, c'est de l'amour qui s'adresse au savoir. Ça ne veut pas dire que c'est du désir de savoir, ça s'adresse au savoir. Et chez l'analyste, du côté de l'analyste, il y a un rapport au savoir inconscient dont la traduction majeure, c'est l'interprétation.
Là où c'est drôle, Lacan va jusqu'à le simple énoncé de règle, indique déjà le point de conséquence de l'étalité pour celui qui.
Oui.
Drôle.
Et c'est comme ça qu'il arrive que quelqu'un reçoive une analyse en potentiel et au bout de deux séances, il s'en fait partir. Alors qu'il veut le garder.
Est-ce que dans ce petit débat sur l'amour, le transfert, il n'y a pas lieu de réintroduire la question des préliminaires et de l'entrée dans le discours analytique, parce que du coup, vous savez ce que dit Lacan dans Au pire, il dit que ce qui compte dans les préliminaires pour lui, c'est la rencontre des corps, et il situe même ça sous le coup du discours du maître, avant l'entrée du. C'est-à-dire le discours du maître, le discours de l'inconscient. C'est-à-dire qu'en effet, il y a ce que relevait Marc de l'énonciation. Déjà, quand on rencontre quelqu'un, dites ce qui vous vient. Chacun dit quelque chose, mais on n'en est pas encore à l'entrée dans le discours analytique qui fera le transfert au savoir. Il y faut autre chose, quand même. Il y faut autre chose. Et Lacan, tout ce temps des préliminaires, au fond, je l'avais lu comme ça, il en fait le temps des conditions de l'amour. Le temps où se construisent les conditions de l'amour et auquel l'analyste se prête quand même. C'est important qu'il se prête à ça. Bien sûr, ce n'est pas son inconscient qui résonne avec l'inconscient de l'autre, etc. Mais il se prête à ça suffisamment pour que quelque chose de l'inconscient de l'analysant vienne quand même se présenter, parce qu'il faut bien, il me semble qu'il faut bien quand même qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre du côté de l'analysant pour que, en plus, ce transfert au savoir vienne à exister d'une certaine façon. Il me semble que c'est là qu'on peut dire allongez-vous, je sais pas, voilà, il me semble que dans ce débat, la question de ces deux temps est importante. Lacan les distingue très bien, et je crois que dans notre pratique aussi. C'est-à-dire d'abord, c'est les conditions de l'amour, et après, c'est autre chose que l'amour banal. Quoi.
Patrick Barillo.
Alors, c'est une question qui s'adresse à vous trois.
Solidaire.
Alors, la question, c'est. Quel sort réservez-vous à cette notion du courage dont il est fait mention dans le texte, particulièrement quand il dit du partenaire « L'amour ne peut réaliser que ce que j'ai appelé le courage au regard de ce destin fatal, le destin fatal étant l'exil du rapport sexuel ». Et après, il continue, il dit « Mais est-ce bien de courage qu'il s'agit ou des chemins d'une reconnaissance ?» Alors je pose la question parce que la dernière fois, cette notion du courage avait déjà été soulevée et à propos de la philia chez les Grecs, et il avait dit, alors là il disait que c'était le courage que chacun avait à supporter l'insupportable du rapport à l'être suprême, que les uns et les autres se reconnaissaient et se choisissaient. Donc là, le courage était impliqué dans la reconnaissance. Là, c'est pas exactement la même chose. Hein, c'est autre chose. Là, il sépare. Il a l'air de vouloir séparer les choses, hein, parce qu'il demande est-ce du courage ou seulement les chemins d'une reconnaissance. Donc voilà la question que je vous pose. Quel sort réservé au courage? Parce que vous l'avez évoqué, mais vous n'avez pas développé la chose.
Non.
Est-ce que c'est impliqué ou pas?
Oui.
Courage.
tu réponds
oh, moi, ça m'est difficile de dire quelque chose, puisque ce qui m'a intéressé dans la phrase, c'était les chemins d'une reconnaissance.
Oui.
Pas le courage, d'ailleurs, il dit par une sorte de poésie. Alors, je ne sais pas si vraiment ça vaut la peine de se... Si c'est là quelque chose, la façon dont il dit par une sorte de poésie, et il met l'accent sur les chemins d'une reconnaissance. Alors, le courage, là, je sais pas, pour ça je saurais pas.
Il avait évoqué, quand il avait parlé de l'amour filia.
Oui, c'est ce qu'il dit.
C'est ça.
Oui. C'est une autre perspective.
Tu as quelque chose.
Tu n'étais pas là la dernière fois. Donc. Le courage, ce serait en fait éviter la passion de l'ignorance, essayer de se confronter à la vie, moi je dirais, telle qu'elle est. Mais je ne suis pas du tout ravie de ce que je suis en train de dire.
Hein. Est-ce que si on prend la...
C'est vivre le réel, enfin vivre... pouvoir supporter le réel de temps en temps.
Non, mais ce qu'il a l'air de dire, c'est que dans la reconnaissance, le courage du partenaire à supporter le réel,
possible,
et ce qui serait le moteur de la reconnaissance.
Oui.
Après, il a l'air de dire que c'est peut-être pas ça. C'est ce qu'il disait pour la filiale.
Il commence par dire que c'est du courage, puis après il dit bon, c'est le chemin d'une reconnaissance. Bon, il dit effectivement. C'est ça, parce qu'on pourrait supposer que c'est linéaire, que c'est d'abord le courage, puis finalement reconnaître le courage de l'autre. Mais non, il dit pas ça du tout. Il dit est-ce bien du courage ou des chemins d'une reconnaissance.
Oui. Donc la réponse.
Eh ben.
Moi j'ai choisi. Moi j'ai choisi.
Alors on ne sait pas. Visiblement, on ne sait pas.
Moi, je dois dire que le courage, j'entends toujours une chose et une autre. C'est-à-dire qu'il y a dans le courage quelque chose d'extrêmement surmonique aussi. La face cachée du courage, c'est aussi quand même l'aspect surmonique.
Bon, il y a peut-être courage et courage.
C'est pour ça que
moi, je ne serais pas contre qu'on maintienne le terme de courage, puisque ce qui est reconnu, si on lit le paragraphe, enfin, comme je le lis personnellement, ce n'est pas l'inconscient de l'autre. Ce qui est reconnu, c'est la façon dont l'être est affecté par le savoir inconscient. Or, la façon, ce que l'inconscient affecte chez l'être, pour grosso modo, c'est le registre de la jouissance, hein, avec sa négativation et sa fragmentation, bon. Et qui implique en plus l'impossible du rapport. Donc, disons que la façon dont l'inconscient affecte, c'est générateur de notre malheur. On peut le dire comme ça, puisque vous voulez parler de la vie, parlons de la vie. C'est générateur de nos souffrances et de notre malheur. Et c'est vrai que tous les sujets ne réagissent pas de la même façon à ce destin qui est pour tous. Hein, qui n'est pas pour quelques-uns. Et donc, alors, introduire le terme de courage, évidemment, c'est une notion qui a l'inconvénient de tremper dans la morale. Hein, c'est ce que vous voulez dire, Martine, sans doute, en disant « c'est surmoïque ». Effectivement, on apprend aux enfants à être courageux. Spécialement aux garçons, parce que les femmes, elles peuvent s'en dispenser plus aisément. Bon, mais... oui, c'est ça. Il n'y a même pas besoin de leur dire. Bon. Et quand Lacan, finalement, dans les mêmes années, juste l'année d'après, quand il parle de l'horreur de savoir les conséquences de l'inconscient, il est bien sur un registre où il y a des variantes individuelles dans la capacité à supporter. La capacité à supporter, si on ne veut pas dire courage, il y a des différences dans la capacité à supporter. Bon, c'est sans doute ça qui l'a poussé à introduire ce mot qui a une connotation morale et un peu éthique comme ça.
Alors peut-être qu'il se reprend, parce que là ça me vient à l'esprit, est-ce bien du courage qu'il s'agit, des chemins de reconnaissance? Ça veut dire qu'en fait, s'il n'y a que les courageux qui peuvent tomber amoureux, il y en a quand même une partie qui ne le sont pas. Donc peut-être qu'il rajoute ou bien des chemins de reconnaissance pour que ce soit à la portée de tout le monde. Parce que...
Ben oui, les non-courageux peuvent s'aimer entre eux. C'était sélectif. Le courage, c'était plus sélectif. Vous avez raison. C'était plus sélectif.
Là,
oui, est-ce que c'est... Enfin, je sais pas, si on parle de la vie, comme ça, la question du courage par rapport à tomber amoureux en même temps, c'est...
Ça me tombe dessus, donc...
Ben, je sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement...
C'est pas du coulé, c'est pas courage. Ben,
c'est pas... Enfin, le courage, c'est quand même... Bon, dès qu'on... Ou alors parce qu'on...
Non, c'est la façon dont, en fait, ils sont courageux par rapport à la
vie. Si on regarde,
oui, c'est ça. Et c'est les traces qu'il en reste. Là.
Non, mais c'est le courage du partenaire. Non, mais c'est ce qu'il veut. C'est le courage du partenaire, c'est pas le sien. Il ne faut pas se tromper. C'est pas être amoureux, c'est pas quoi être courageux. C'est de repérer chez l'autre, ça.
Oui, c'est ça.
Oui, alors, justement, la question du courage du partenaire.
Non mais attendez, il me semble qu'il y a trois termes à ne pas perdre de vue. On a le corps. Non, il ne parle pas du corps ici. On a l'inconscient. Mais on a la thèse qui est précédente, c'est que l'inconscient, le savoir inconscient, la langue affecte le corps, affecte la jouissance. Et puis il y a le sujet qui n'est pas son corps, qui a son corps. Et l'amour est un phénomène sujet, c'est pas un produit de l'inconscient. C'est un fait et c'est une réponse. C'est du côté des réponses du sujet, en tant que le sujet, il est affecté par l'inconscient. Donc, je crois qu'il faut bien répartir les deux pans. Alors, du côté du sujet, effectivement, on peut poser la question de comment ils supportent le destin que leur fait l'inconscient, avec plus ou moins de patience, avec plus ou moins de jérémiade, avec plus ou moins, au contraire, d'affrontement, avec le rapport au réel. On parle du rapport au réel. Le rapport au réel, c'est le rapport du sujet au réel. C'est pas...
Alors, est-ce que c'est ça, l'opposition subjective de l'être ?
Oui, je ne sais pas, on pourrait convoquer ça, oui. Oui. Il avait prévu d'en parler, pardon, il n'a pas gardé ce titre, mais position subjective de l'être, oui, pourquoi pas. C'est assez parlant.
Oui, alors, je ne sais pas si je peux le... Ma question, si je peux la continuer par rapport à cette question du courage. En tout cas, je voulais, c'est pour Annie-Claude, quand vous énoncez la contingence de l'amour est insupportable, mais peut-être c'est dans ma façon de l'écrire, vous le posez comme un fait établi. Et je me demandais si quand même, bon, que l'amour soit contingent, certes, mais est-ce que c'est insupportable pour tout sujet ou justement est-ce que pour certains sujets ça ne peut pas être, est-ce qu'il n'y a pas une part aimable dans cette contingence? C'est ça ma question au fond.
Si, sûrement.
Je pensais à Oscar Wilde qui dit l'incertitude est l'essence même de l'expérience amoureuse et qui en fait une de ses devises, par exemple.
Oui, mais est-ce que c'est autre chose que dans les mots, ça? Est-ce que c'est pas seulement imaginaire? Est-ce que véritablement l'amour, ça peut se vivre comme tout à fait contingent? Est-ce que finalement c'est pas une question plus fantasmatique?
Peut-être. Mais je me demandais si vous posiez comme une, comme une vérité, enfin comme une certitude, que c'est un. Voilà, je voulais juste remettre en question le. Ce est insupportable. C'est, j'y mettrai des
oui,
nuances.
Oui, quelques guillemets. Oui. Oui. Mais j'ai déjà posé tellement de questions que pour une fois, j'ai trouvé que ça. Mais je pense que de toute façon, aimer être aimé, si on pense que ça va s'arrêter. Ça doit quand même être pas loin de l'insupportable. Donc, on y met des tas de fioritures à côté pour rendre ça encore plus excitant, peut-être. Mais je pense que c'est fantasmatique.
Ça doit s'arrêter, dites-vous.
Non,
non,
ça ne va pas. Non, mais en fait, je ne sais plus Lacan qui dit ça. En fait, aimer, c'est le. Je ne sais plus comment il le dit, mais enfin, en tout cas, c'est fondamental pour l'homme. Donc,
oui.
Se faire frémir en pensant que ça va s'arrêter, je pense que c'est beaucoup plus fantasmatique que le souhait tout à fait important. L'amour qui risque.
J'ai pas compris. J'ai pas...
Alors, je recommence.
Oui. Oui.
Agnès, la question d'Agnès, c'est est-ce que pour tout le monde, le fait que l'amour soit contingent est insupportable? Parce que je l'ai mis avec un point.
Oui.
Bon, elle précise tout à fait justement en disant que non, il y a des gens pour qui ça ne l'est pas, que justement le côté précaire apporte davantage d'intérêt à l'amour. Et moi je pense que c'est plutôt. Mais je pourrais mettre un point d'interrogation indiscutablement et être moins affirmative, mais je crois quand même que le côté précaire de l'amour satisfait peu l'être humain. Et qu'en fait, voilà. Mais que par contre, il peut se faire des frayeurs, enfin, il peut penser que ça va s'arrêter, enfin, des tas de choses comme ça. Tout est libre, on peut toujours en faire. Pour faire vivre l'amour, on est prêt à tout, hein.
Ce qui est contingent, c'est les rencontres.
Oui.
Oui, voilà. Ça, c'est insupportable.
Ah ben non.
C'est d'être fort agréable.
Oui.
Donc, le fantasme n'est pas contingent, lui, il est constant.
Oui, oui ça.
Bon.
C'est pas les
rencontres. Et le fantasme, c'est pas la rencontre.
Non.
Parce que pour faire un amour, il faut des fantasmes et une rencontre. Bon. Alors, ça n'est pas insupportable, la rencontre. La rencontre contingente, au contraire, c'est ce qui peut arriver de mieux.
Oui, oui, oui.
Tout le monde est persuadé de ça.
Oui, et
après,
c'est
pas ça, par ailleurs, comme il y a le réel du non-rapport, le pronostic du savoir analytique n'est pas positif. C'est-à-dire que, effectivement, après, il faut que l'amour dure. Et ça, c'est il s'obstine. Il faut qu'il s'obstine. Il s'obstine. Bon. Et au fond, le réel.
L'amour ne peut pas durer au sens.
Et pourquoi pas?
Tu vois, sans l'énamoration. C'est ce que Lacan veut.
Comment? Il peut pas.
Si l'amour s'obstine, il y a quelque chose de l'énamoration. C'est ce qu'il dit. Parce que Lacan, ça débouche sur l'énamoration.
La haine, tu veux dire?
Sur la haine. Il parle de. Oui, mais d'accord, mais il parle de l'énamoration, justement.
Mais c'est-à-dire
que c'est que l'amour, c'est. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu.
Oui, mais ça, c'est l'amour.
Oui, bah oui, ça se constitue.
Ça vacille, hein.
Comment?
Ça vacille, hein. C'est pas toujours la haine.
Je veux dire que c'est que de la haine. Je dis qu'il y a une oscillation. C'est pas que de la haine.
Non,
l'amour, c'est pas que de la haine. C'est que. Bon, on voit, enfin, je sais pas, au quotidien, on le remarque, non?
Personne ne peut cette expérience. L'amour est sur les petits nuages, tout est bien.
Je redirais bien ce que j'ai déjà dit souvent. L'énamoration, ça n'est ni la vraie amour, ni la vraie haine. L'énamoration, c'est le registre dialectique où il y a amour qui implique la demande d'amour, l'espoir d'amour, l'espoir du retour. Et évidemment, comme ça ne répond jamais de la façon que l'on voudrait, il y a dans l'amour toujours une face d'énamoration. Et ça, c'est très présent dans le transfert. Le transfert, il y a une attente de transfert, et il y a aussi
une énamoration de transfert. Il n'y a pas qu'un amour de transfert, il y a une énamoration de transfert, c'est-à-dire de la récrimination de la demande, et face inversée de la demande, il y a de la récrimination analysante. Bon, ça c'est l'énamoration. Mais si Lacan prend la peine de distinguer la vraie amour et la haine, c'est que ça n'est pas, ça n'est pas deux faces inversées. C'est la vraie amour qui conduit à la haine. Elle débouche dans la haine. Mais ça suppose qu'on les ait d'abord bien séparés. C'est pas dialectique. C'est pas dialectique. Là, il n'y a pas une dialectique. Il y a éventuellement un chemin qui, de la vraie amour, conduit à la haine. Et ça, on a quand même des...
La vraie amour, là.
C'est la langue française qui veut ça, c'est pas Lacan.
Bien sûr. À la fin, moi, je pense que c'est pas tout à fait un hasard si on utilise ce féminin à ce moment-là.
Oui. La vraie amour, oui, vous avez convoqué la vérité.
Oui.
Parce qu'il dit la vraie amour, moi ça ne me ferait pas convoquer la vérité.
Non.
La vraie amour, ça veut dire, c'est pas les petits amours quotidiens qui vivotent dans le quotidien, c'est les grandes passions d'amour. Bon, c'est ça la vraie amour. Ça ne convoque pas spécialement la vérité, pas plus que les petites. Et ça conduit à la haine, justement, parce que c'est une exigence absolue. L'exigence absolue qui échoue donc en tant qu'absolue et qui débouche alors sur les passions de vraie haine pour les, vous l'avez bien dit, pour l'hétérogénéité de l'autre, que l'autre n'est pas le même, quoi. L'altérité, pardon, je cherchais le mot, oui.
Bon, si vous voulez boire un verre pour ce...